OK, donc, on va commencer le 31e message dans l'Épître aux Romains. On arrive vers la fin. On a peut-être 5 ou 6 messages qui restent. Je voudrais vous rappeler que Romains chapitre 1 jusqu'au chapitre 8 explique l'Évangile. Dieu met en évidence son amour pour les pécheurs. Que Dieu a pour vous le salut des pécheurs par l'Évangile de Jésus-Christ. Et quelque part, les chapitres 9, 10 et 11 sont un appel de croire en Jésus-Christ. Ça parle du peuple juif, beaucoup, que le peuple juif croit en Jésus-Christ, mais c'est un appel à tout le monde, que nous devons croire en Jésus-Christ. Et à partir du chapitre 12, Dieu s'adresse à ceux qui ont cru en Jésus-Christ. C'est le message de la vie chrétienne. Pour ceux qui ont été nés de nouveau, on a cru en Jésus-Christ, on est nés de nouveau, que faire maintenant? Eh bien, il faut marcher avec Dieu. Donc, on a l'appel à se consacrer à Dieu. Donc, que le chrétien consacre sa vie comme un sacrifice vivant dans Romains chapitre 12 et verset 1. Et puis dans le verset 2, l'appel à renouveler nos pensées sur la base de la parole de Dieu, pour partager les pensées de Dieu, pour adopter les pensées de Dieu. Changez vos pensées afin de changer vos pratiques, n'est-ce pas? Et puis, à travers les chapitres 12 à 15, Romains chapitre 12, verset 12 jusqu'au Romains chapitre 15, on focalise sur l'importance de la pratique de l'amour chrétien. Donc ici, dans Romains chapitre 14 et 15, qu'on commence aujourd'hui, mais ça va prendre plusieurs semaines, on met en valeur la pratique de l'amour, mais dans le contexte des multiples différences parmi les chrétiens. Différences de culture, de langue, de croissance, de compréhension. Il y a plein de différences parmi les chrétiens. Paul connaît personnellement presque 30 adultes dans cette église à Rome, où il n'a jamais encore visité. Et il va faire référence aussi aux frères et sœurs dans au moins 3 églises de maison. Imaginons l'église à Rome, dans la capitale de l'Empire romain, qui se constitue de juifs et de païens convertis à Christ, venus de tout l'Empire. Il y a certainement de nombreuses différences entre les divers juifs et les divers païens qui se trouve dans cette église à Rome. Paul veut faire disparaître les moindres soupçons d'hostilité, de critique, de condamnation et de jalousie qui pourraient provoquer des divisions au sein d'une église qui est composée de diverses ethnies. Ou même, comme nous, de diverses personnalités. Car Jésus nous a donné ce commandement: aimez-vous les uns les autres. Aimez-vous les uns les autres. Donc je vais citer quelques versets tirés de chapitre 14 et 15 qui un peu résument la volonté de Dieu pour l'unité dans l'Église locale. Et la base de cette idée, c'est que nous devons nous conduire selon l'amour. Okay? Donc je vais lire chapitre 14, verset 13. « Ne nous jugeons donc plus les uns les autres, mais pensez plutôt à ne rien faire qui soit pour votre frère une pierre d'achoppement ou une occasion de chute. » Chapitre 14, verset 17, fin du verset. Le royaume de Dieu, c'est la justice, la paix, la joie par le Saint-Esprit. Verset 18. Celui qui sert Christ de cette manière est agréable à Dieu et approuvé des hommes. Ainsi donc, recherchons ce qui contribue à la paix et à l'édification mutuelle. Chapitre 15 et verset 2. Que chacun de nous complaise au prochain pour ce qui est bien en vue de l'édification. Et chapitre 15 et verset 7. Accueillez-vous donc les uns les autres comme Christ vous a accueillis pour la gloire de Dieu. À Rome, dans l'ancienne capitale du monde païen, il y avait de nombreuses et diverses langues et cultures. Les convertis de toutes les origines et tous les niveaux de la société se retrouvaient mélangés ensemble dans l'église de la capitale. Obligatoirement, ce mélange a dû créer des frictions et de l'animosité entre les chrétiens. En particulier, l'écart entre les juifs et les païens. Les nouveaux convertis juifs ne voulaient pas manger avec les païens. Ils pratiquaient peut-être encore, donc ces nouveaux convertis pratiquaient peut-être encore le sabbat et voulaient peut-être imposer cette pratique sur les autres chrétiens. Les païens mangeaient de tout selon leurs habitudes sans s'inquiéter aucunement des convertis juifs qui pouvaient être peut-être choqués par ces habitudes. Donc Paul adresse ce problème. Le problème des différences entre les chrétiens. Il y a toujours des différences entre les chrétiens. Romains chapitre 14 et 15, c'est ça le sujet. Car il y a toujours des sujets de friction et de difficultés, de hostilité parmi les chrétiens. Pourquoi? Parce que nous sommes tous des individus. Nous devons apprendre à s'entendre et encore plus à nous aimer les uns les autres. Comment faire pour s'entendre avec les autres chrétiens qui ont des opinions et des pratiques différentes des nôtres? Quelle est l'attitude à adopter qui respecterait en même temps Dieu et les hommes? Avant de continuer, nous devons noter un fait important. Les fondations de la réponse à ces questions ont été déjà posées dans Actes chapitre 15. Là, on apprend que les Juifs ne devaient pas imposer des règles sur les convertis du paganisme. En revanche, sur la base de sa sainteté, le Saint-Esprit de Dieu a quand même imposé des abstentions minimums sur les chrétiens d'origine païenne. Voici ce que dit Actes chapitre 15, versets 28 et 29. Donc le Saint-Esprit dit, verset 28, « Car il a paru bon au Saint-Esprit et à nous, donc les chrétiens dans l'Église, de ne vous imposer d'autres charges que ce qui est nécessaire. » Savoir, verset 29, de vous abstenir des viandes sacrifiées aux idoles, du sang, des animaux étouffés et de l'impudicité. Chose contre lesquelles vous vous trouverez bien de vous tenir en garde. Puisque c'est le Saint-Esprit qui s'exprime directement dans ces versets, ceci n'est certainement pas un simple appel temporaire pour apaiser les Juifs. Non, c'est le Dieu éternel qui parle aux convertis d'origine païenne pour leur dire que la vie chrétienne doit être différente que leur vie païenne. Pour leur rapporter ce message dans toutes les églises et les divers enseignements de Paul à travers ses épîtres, clarifie et met en lumière Actes chapitre 15, versets 28 et 29. Paul élabore même sur la transition du paganisme au christianisme dans son épître à Tite. Ainsi, ce que le Saint-Esprit enseigne ici, dans Romains chapitres 14 et 15, ne contredit en rien ce que le Saint-Esprit a déjà enseigné là, dans Actes chapitre 15, versets 28 et 29. Pourquoi? Parce que Dieu ne change pas. Dieu ne se contredit pas. La vérité est toujours la vérité et la sainteté est toujours la sainteté. Maintenant, on va regarder dans notre texte pour aujourd'hui. Hein? Romains chapitre 14, et je vais faire aujourd'hui versets 1 à 12. Par la suite, on va faire verset 13 à la fin du chapitre, et on va entrer dans le chapitre 15 qui continue le même sujet, donc au moins trois dimanches sur ce thème. Romains chapitre 14, verset 1. Faites accueil, donc ça veut dire prenez à vous-même ou recevez ou accueillez. Acceptez comme ami. C'est ça la signification de ce mot. Faites accueil à celui qui est faible dans la foi. Ce mot faible, ça veut dire malade ou pas encore mûr dans la foi. Et ne discutez pas sur les opinions. Ne discutez, ça veut dire ne prononcez pas votre sentence ou votre condamnation sur ses opinions, sur ses raisonnements, de sa façon de penser. Donc, il est évident que le nouveau converti a beaucoup de choses à apprendre concernant la vie chrétienne. Hein, on va faire les baptêmes. Mais le baptême, ce n'est pas la fin de la vie chrétienne. Le baptême, ça représente le début. Hein? C'est déjà spectaculaire qu'une personne a cru en Jésus-Christ. Puis que cette personne se fait baptiser pour confesser publiquement sa foi en Christ. Désormais, cette personne sera reconnue par les autres chrétiens et se rejoindra à une communauté de frères et sœurs. Jésus dit dans Matthieu chapitre 28, versets 19 et 20, « Allez, faites de toutes les nations des disciples les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. » Et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Donc, dans l'évangélisation, on apprend l'évangile. Celui qui croit se fait baptiser. Ce n'est que le début de la vie chrétienne. Il y a obligatoirement beaucoup à apprendre après le baptême. Romains chapitre 12, verset 2 dit qu'il y a des choses du monde à désapprendre, à ne plus faire, et il y a des choses de Dieu à apprendre. Je vais lire encore. Ne vous conformez pas au siècle présent. Ben voilà les choses à désapprendre. Mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Ce sont les choses de Dieu qu'il faut apprendre. Ce n'est pas automatique, ce n'est pas tout de suite, ça prend du temps. Paul ne dit pas ces choses aux non-baptisés, il ne dit pas ces choses aux non-croyants. Il écrit aux croyants baptisés, membres de l'Église de Rome, sans renouvellement de l'intelligence, sans adopter les pensées de Dieu, la vie chrétienne véritable est impossible. Ainsi, connaissant que les nouveaux convertis vont progresser, il faut leur donner un peu de grâce. Il ne faut pas condamner leur manière de penser, mais plutôt les encourager à progresser. Tel quoi pouvoir manger de tout, tel autre qui est faible, donc la foi de cette personne n'est pas mûre. Il est sensible sur ce sujet. Il a peut-être une conviction quelconque sur le sujet de ce qu'il mange. Eh bien, il ne mange que des légumes. L'autre a le droit à ses opinions. Si quelqu'un veut être végétarien, ça le regarde. Ça ne me regarde pas. C'est ça ce que ça veut dire. Hein? ces différences ne doivent pas être le sujet des discussions, ce ne doit pas être le sujet des disputations et divisions dans l'Église. Nous recevons les frères et sœurs en dépit de leurs opinions. Verset 3. Que celui qui mange ne méprise point celui qui ne mange pas. OK? Ne méprise veut dire ne diminue pas la valeur de cette personne. Et celui qui ne mange pas ne juge, ne condamne celui qui mange, car Dieu l'a accueilli. Alors, ce mot accueilli veut dire que Dieu l'a reçu en amitié. C'est le même mot que dans le verset 1. Alors, ce mot accueilli est un mot qui va revenir plusieurs fois dans chapitre 14 et chapitre 15. C'est le point presque capital de ces deux chapitres, c'est que Dieu nous a accueillis en tant que pécheurs, pardonnés. Il a pris nous dans nos saletés, il nous a pardonnés, il nous a lavés, il nous a purifiés. Et nous devons avoir le même genre de respect pour les autres. Comme Dieu nous a vus et nous a pris en amitié, nous devons recevoir les autres en amitié, en dépit de leur faute. Puisque Dieu a reçu en amitié une telle personne, ne devons-nous pas la recevoir aussi? Paul est lui-même un bon exemple. En tant que persécuteur de l'Église, les frères se méfiaient de sa conversion. Oh, je ne sais pas si on pourrait laisser Paul entrer dans notre Église. Alors, Barnabas est allé le prendre en amitié et l'a introduit dans le cercle des croyants. Verset 4, la première partie. Qui es-tu, toi, qui juges un serviteur d'autrui? Donc, c'est-à-dire, moi je suis croyant, donc serviteur du Seigneur Jésus. Je suis serviteur de Jésus en premier. OK? Qui es-tu, toi, qui juges un serviteur d'autrui? S'il tient debout ou s'il tombe, cela regarde son maître, cela regarde Jésus. Quelle réponse va-t-on donner quand Dieu va demander? Par quelle autorité êtes-vous en train de juger mon serviteur? Qu'est-ce qu'on va dire? Jésus était très sévère contre les frères et sœurs qui se condamnaient les uns les autres. Paul reprend ici, dans ce paragraphe, il reprend l'enseignement de Jésus. On peut lire dans Jean chapitre 7 et aussi dans Luc chapitre 6, donc je vais les lire. Jean 7, 24. Ne jugez pas selon les apparences, mais jugez selon la justice. Et puis Luc chapitre 6, vous pouvez tourner si vous voulez. Luc chapitre 6, versets 35 à 42. C'est cette partie qui commence avec la phrase « Mais aimez vos ennemis ». C'est fort, aimer, n'est-ce pas? Aimez vos ennemis, faites du bien et prêtez sans rien espérez. Et votre récompense sera grande, et vous serez fils du Très-Haut, car il est bon pour les ingrats et pour les méchants. Soyez donc miséricordieux, comme votre Père est miséricordieux. Et voilà le verset. Ne jugez point, et vous ne serez point jugés. Ne condamnez point, et vous ne serez point condamné. Absolvez ou pardonnez, et vous serez absous ou pardonné. Donnez, et il vous sera donné. On versera dans votre sein une bonne mesure, serrée, secouée, et qui déborde, car on vous mesurera avec la mesure dont vous vous serez servi. Il leur dit aussi cette parabole. Un aveugle peut-il conduire un aveugle? Ne tomberont-ils pas tous deux dans une fosse? Verset 40, et on va revenir plus tard à ce verset. Le disciple n'est pas plus que le maître. Vous n'êtes pas plus que Jésus. Moi, je ne suis pas plus que Jésus. Mais tout disciple accompli sera comme son maître. Pourquoi vois-tu la paille? Ah, voilà le problème. Pourquoi vois-tu la paille qui est dans l'œil de ton frère et n'aperçois-tu pas la poutre qui est dans ton œil? Ou comment peux-tu dire à ton frère, frère, laisse-moi ôter la paille qui est dans ton œil, toi qui ne vois pas la poutre qui est dans le tien? Hypocrite, ôte premièrement la poutre de ton œil, et alors tu verras comment ôter la paille qui est dans l'œil de ton frère. Ok, Romains chapitre 14, verset 4, la seconde partie. Mais il se tiendra debout et le Seigneur a le pouvoir de l'affermir. Donc, debout et affermir, c'est le même mot. Ça veut dire le Seigneur a le pouvoir de faire tenir debout son fidèle. Celui qui croit en Jésus, même s'il y a des fautes dans sa vie, Dieu sait comment faire pour faire tenir debout cette personne. Et c'est rassurant, n'est-ce pas, de savoir que notre Seigneur agit en nous pour nous rendre capables de faire sa volonté. Il nous prend tous dans la poubelle et il fait quelque chose de nous, n'est-ce pas? Philippiens chapitre 2, verset 13 dit, « Car c'est Dieu qui produit en vous le vouloir et le faire de son bon plaisir. » Verset 5. Tel fait une distinction entre les jours, tel autre les estime tous égaux. Ici, Paul ne parle pas de ce qui est moral. Hein, parce que dans le chapitre 15, verset 2, il dit en ce qui concerne le bien. Donc on ne parle pas d'immoralité. On parle des habitudes personnelles et culturelles. Nous avons tous nos opinions et nos façons d'agir. N'essayez pas de rectifier les habitudes des autres, mais donnez-leur le temps de grandir dans la foi. Si une personne agit selon Romains chapitre 12, verset 2, le Seigneur va changer ses pensées et elle comprendra alors l'utilité ou l'inutilité de ce qu'elle fait. Chapitre 14, verset 5, la seconde partie. Que chacun ait en son esprit une pleine conviction. Donc, ce mot conviction veut dire assurance ou certitude. L'idée, c'est que chacun soit entièrement persuadé dans ses propres pensées. Dans Romains chapitre 4, verset 21, nous avons lu qu'Abraham avait la conviction absolue, la pleine conviction que Dieu pouvait ressusciter son fils Isaac. C'est ça l'idée de ce mot-là, conviction. Verset 6. Celui qui distingue entre les jours agit ainsi pour le Seigneur. Celui qui mange, c'est pour le Seigneur qu'il mange, car il rend grâce à Dieu. Celui qui ne mange pas, c'est pour le Seigneur qui ne mange pas, et il rend grâce à Dieu. Donc, je veux noter, simplement en passant, que nous devons rendre grâce à Dieu au moment de nos repas. C'est une habitude chrétienne, il le dit ici. Bon, pour le verset, on voit plusieurs fois répéter cette phrase, « pour le Seigneur ». C'est déjà bien qu'une personne fait ou ne fait pas, qu'il fasse pour le Seigneur. C'est bien qu'une personne veuille plaire à Dieu, qu'il fait pour le Seigneur. C'est très important que nous agissons pour le Seigneur. Nous devons permettre au Seigneur d'agir dans notre vie pour changer nos pensées. De cette manière, quand le Seigneur change nos pensées, nous aurons des nouvelles convictions. Et nos nouvelles convictions seront construites sur la base de quoi? Sur la base de la parole de Dieu. Verset 7. En effet, nul de nous ne vit pour lui-même. Et nul ne meurt pour lui-même. Car si nous vivons pour le Seigneur. Et si nous mourons pour le Seigneur, soit non que nous vivions, soit que nous mourions, nous sommes au Seigneur. Notre vie, comme notre mort, est entre les mains du Seigneur. C'est donc bien d'agir par conviction personnelle, sans imposer nos convictions personnelles sur les frères et sœurs de l'Assemblée. Plus nos convictions sont basées correctement sur la parole de Dieu, plus nos convictions seront bien fondées. Verset 9. Car Christ est mort et il a vécu, c'est-à-dire il est vivant définitivement. Christ est mort et il est vivant pour toujours, afin de dominer ou d'être seigneur ou de régner sur les morts et les vivants. Verset 10. Mais toi, pourquoi juges-tu ton frère? Pourquoi condamnes-tu ton frère? Ou toi, pourquoi méprises-tu ton frère? Donc le mot méprise ici, c'est le mot traite avec méprise ou ignore ton frère. Donc la bonne réponse, c'est que vous n'avez pas raison de critiquer ton frère. Vous n'avez pas le droit de condamner votre frère. Vous n'avez même pas ni le droit ni raison d'ignorer votre frère. Ignorer quelqu'un est un manque d'amour, c'est un péché contre la personne et contre le Seigneur Jésus qui a dit « Aimez-vous les uns les autres ». Nous sommes ensemble. Nous formons une communauté de croyants unis en Christ. Le corps local des disciples. Nous avons besoin les uns des autres. Donc, il faut arrêter de justifier vos faux raisonnements. Adoptez la pensée de Dieu vis-à-vis des frères et sœurs. Vous devez aimer ce frère ou cette sœur que vous êtes en train de mépriser ou vous êtes en train d'ignorer. Verset 10, la seconde partie, donc c'est que un seul mot, puisque. Pourquoi? Puisque. Ce mot puisque, dans ce verset, nous ramène à la vérité. Celui que vous méprisez ou que vous ignorez est un ami de Dieu, un enfant de Dieu. Les chrétiens n'ont pas le droit de critiquer l'autre ou de le condamner, car ce droit appartient à Dieu. Voulez-vous vraiment usurper la place de Dieu pour condamner ou ignorer cette autre personne? Bien sûr que non. Je veux relire le verset que j'ai lu tout à l'heure, Luc chapitre 6, verset 40. Le disciple n'est pas plus que le maître. Si Dieu n'ignore pas la personne, si Dieu ne condamne pas la personne, qui est-ce moi de le critiquer, de le condamner, de l'ignorer? Mais tout disciple accompli sera comme son maître. Et qu'est-ce que le maître fait? Il accueille. Puisque le Seigneur accepte ce frère, nous ne pouvons pas faire autrement. Donc, la fin du verset 10, nous, c'est-à-dire nous les croyants en Jésus-Christ, nous comparaîtrons tous devant le tribunal de Dieu. Ce mot « comparaîtrons », ça veut dire nous serons tous exposés. Nous serons tous obligés d'être là devant le tribunal de Christ. Alors, ce tribunal concerne les récompenses des croyants. Nous ne parlons pas ici, dans ce verset, du jugement du grand tremblant qui se trouve vers la fin de l'Apocalypse. Ce jugement-là, dans l'Apocalypse, c'est le jugement de condamnation des non-croyants. Paul ne parle pas de ça ici. Paul invoque plutôt ce qu'il enseignait dans 1 Corinthiens chapitre 3. Vous pouvez tourner là si vous voulez. 1 Corinthiens chapitre 3, versets 11 à 15. 1 Corinthiens chapitre 3, verset 11, « Car personne ne peut poser un autre fondement que celui qui a été posé, savoir Jésus-Christ. » Donc, on est sauvé uniquement par la foi en Jésus-Christ, par la grâce de Dieu, n'est-ce pas? « Or si quelqu'un bâtit sur ce fondement de la foi en Jésus-Christ, il bâtit sur ce fondement avec de l'or, de l'argent, des pierres précieuses, du bois, du foin, du chaume, l'œuvre de chacun sera manifestée. » Quand? Ben, ce jour-là, au tribunal de Christ. Car le jour le fera connaître parce qu'elle se révélera dans le feu et le feu éprouvera ce qu'est l'œuvre de chacun. Si l'œuvre bâtie par quelqu'un sur le fondement subsiste, il recevra une récompense. Si l'œuvre de quelqu'un est consumée, il perdra sa récompense. Pour lui, il sera sauvé. Mais comme au travers du feu, hein, c'est un moment que tout sera exposé. Ce qui est sans valeur dans notre vie de chrétien disparaîtra. Seulement ce qui a de la valeur restera. Amen. qu'il y ait des choses de valeur, n'est-ce pas? Verset 11. Car il est écrit, « Je suis vivant, dit le Seigneur, tout genou fléchira devant moi, et toute langue donnera gloire à Dieu. » Ainsi, chacun de nous rendra compte à Dieu pour lui-même. Ce n'est pas l'autre qui va rendre compte pour vous, ce n'est pas moi qui va rendre compte pour l'autre. Chacun rendra compte à Dieu pour lui-même. Puisque, c'était le mot avant, puisque Dieu se charge d'évaluer l'utilité de la vie des uns et des autres, nous n'avons pas besoin de le faire. Nous ne pouvons pas le faire. Si l'autre mange ce que je n'aime pas manger, cela ne me regarde pas. Chacun doit se convaincre devant Dieu que sa vie est agréable à Dieu. Si nous lisons tous la parole de Dieu, nous allons tous nous rapprocher de plus en plus les uns des autres. Mais nous serons toujours des personnes différentes les uns des autres. Nous devons manifester notre amour les uns pour les autres par le respect que nous avons pour les uns des autres, en dépit de nos différences. Comme Paul a dit dans Romains chapitre 12 et verset 18, s'il est possible, autant que cela dépend de vous, soyez en paix avec tous les hommes. Donc, autant plus entre chrétiens. Laissons à Dieu la place de Dieu et soyons tous des disciples, des apprentis du Seigneur Jésus-Christ. Focalisez sur votre vie. Travaillez sur votre vision. Enlevez le poutre de votre œil. Dieu s'occupera de l'autre. Comme Dieu s'occupe, bien sûr, de vous aussi. Alors, je vous répète que ce sujet n'est pas terminé. Il continue dans chapitre 14, il va continuer chapitre 15 à traiter ce même sujet. Donc nous allons poursuivre ce sujet à travers les prochaines deux, peut-être trois dimanches. Amen. Que le Seigneur vous bénisse.